Bonjour à tous, bienvenue. Je me présente, je m'appelle Patrick Hudelot, je suis directeur adjoint de l'Institut d'astrophysique de Paris et je suis très heureux de vous recevoir dans l'amphithéâtre qui vient d'être rénové, qui est presque tout neuf, pour ce cycle de conférences dans le cadre de la Fête de la Science 2025. Et donc la première conférence vous sera présentée par Clotilde L'Aigle. Elle a soutenu sa thèse de doctorat en 2016. Ensuite, elle a fait plusieurs années de post-doc à Oxford, en Angleterre, avant d'être recrutée comme astronome à l'IAP. Et elle travaille sur la formation et l'évolution des galaxies, en particulier en relation avec leur environnement, les filaments, les amas de galaxies, etc. Et donc, je vais lui laisser la parole et je vous souhaite une très bonne conférence. Ah oui, petit détail. Pour les questions, il y aura une prise de vidéo de la salle. Donc, s'il y a des gens que ça embête ou que ça dérange, c'est pour vous prévenir. Voilà. Merci.
Merci. Est-ce que vous m'entendez bien ? Super. Bienvenue. Merci beaucoup d'être ici. Bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris pour la Fête de la Science. D'où vient l'univers ? Que contient-il ? Ou bien, dit plus simplement, que contient le monde tel que nous l'observons ? Et d'où vient-il d'un point de vue physique ? Alors, c'est des questions peut-être que vous vous êtes déjà posées, c'est des questions qui sont très ambitieuses, c'est ambitieux d'y chercher des réponses. Et aujourd'hui, je vous propose d'explorer avec vous le récit de l'univers qu'on peut lire dans les galaxies. Alors, cette présentation va être distribué en quatre parties. Je vais d'abord vous expliquer brièvement le récit de la découverte des galaxies. Ensuite, on va s'intéresser aux formes des galaxies pour essayer de comprendre ce qu'elles nous racontent de leur histoire. Et ensuite, on va s'intéresser à ces mêmes galaxies pour comprendre ce qu'elles nous racontent de l'invisible dans l'univers, de ce qu'on appelle l'univers sombre. Et enfin, je vous parlerai du télescope Euclide qu'on a lancé pour décrypter ce récit des galaxies sur elles-mêmes et sur l'univers. Alors, je vous propose de commencer avec cette image. Donc ça, on voit un ciel étoilé, on peut voir ça d'un peu partout. Ici, la photo, elle est prise au sommet du Mauna Kea, à Hawaï. C'est un lieu qui est privilégié pour l'observation. C'est vraiment en altitude, c'est à l'abri de la pollution lumineuse. Là, les lueurs qu'on voit sur la photo, c'est en fait les lueurs du Mauna Loa, qui est un volcan en activité sur la même île. Et puis, c'est aussi à l'abri de la pollution atmosphérique. La météo est assez stable. Donc, c'est pour ça qu'on a installé beaucoup de télescopes au sommet du Mauna Kea, dont vous voyez les silhouettes ici. Alors là, si je vous demandais ce qu'on voit sur cette photo, sûrement vous me diriez qu'on voit des étoiles. Peut-être certains me diraient qu'on voit la Voie lactée. Et moi, je vous dis qu'on voit une galaxie. Et en fait, toutes ces réponses disent la même chose. Ce qu'on voit, c'est l'intérieur de notre propre galaxie, la Voie lactée. Et cette galaxie, c'est un ensemble de plusieurs milliards d'étoiles. Et donc, comme on est à l'intérieur, en fait, on a un point de vue très particulier sur cette galaxie. C'est comme si on essayait de reconstituer la géographie de Paris en se plaçant, par exemple, au jardin du Luxembourg. Et cette bande qui est lumineuse ici, c'est en fait juste parce qu'il y a beaucoup plus d'étoiles ici, à cet endroit, parce qu'on regarde vers l'intérieur du disque de la Voie lactée. Puis on voit aussi des zones plus sombres qui sont dues à la poussière interstellaire, qui sont des macromolécules ou des grains microscopiques de matière qui absorbent la lumière, notamment dans le visible, et puis qui la réémettent à d'autres longueurs d'onde dans l'infrarouge lointain. Alors je vais vous montrer maintenant une autre visualisation du ciel, qui est celle-ci. On voit à peu près la même chose, donc on voit des étoiles, et puis on voit aussi cet objet diffus. Voilà, cet objet diffus. Alors, jusqu'au début du XXe siècle, la perception qu'on avait de l'univers, c'était seulement celle de ce ciel étoilé, donc on n'envisageait pas l'univers autrement que notre galaxie. Cependant, pendant plusieurs siècles, les astronomes se sont attelés à faire un répertoire des objets du ciel profond et notamment des objets diffus, ceux qui n'ont pas l'apparence d'une étoile, tels que celui-ci. Et ce champ d'exploration s'est particulièrement développé avec un astronome américain, Edwin Hubble, qui a observé depuis l'observatoire du Mont Wilson en Californie de manière un peu systématique ces objets diffus. Donc là, la date que j'ai mise pour Hubble, ça correspond à la date de sa soutenance de thèse. Donc il a publié également après sur ces objets. Et notamment, voilà, dans cette publication qui date de 1920, il fait une investigation un peu systématique de ces objets diffus qu'on appelle nébuleuses. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait, sur cette planche, on voit à la fois des objets qu'on connaît maintenant, tels que sous le nom de rémanentes supernovae ou nébuleuses de formation d'étoiles, et puis on voit des objets qui, de toute apparence, ressemblent à des galaxies. Mais à cette époque, ce qu'écrivait Hubble, c'est qu'on connaît très peu de choses sur la nature de ces nébuleuses, on n'a pas de classification systématique, on n'a pas même de définition précise, et ce qu'on sait juste, c'est qu'elles ne sont pas à l'intérieur de notre système solaire. Et donc, l'objectif, c'est de les étudier de manière statistique, c'est-à-dire d'en observer beaucoup, de regarder la distribution de la lumière dans l'objet, la lumière stellaire, d'étudier leur mouvement, etc. Cette exploration a vraiment pris un autre tournant, notamment grâce aux travaux d'une autre astronome, Henrietta Leavitt, qui, elle, s'intéressait aux étoiles de notre galaxie, donc pas les objets diffus, mais vraiment les étoiles, et en particulier un certain type d'étoiles, les céphéides, qui sont des géantes ou supergéantes jaunes, et qui ont la particularité de voir leur luminosité varier, comme ça. Alors évidemment, beaucoup plus lentement, la variation est à l'échelle de plusieurs jours, voire de quelques semaines. Et en fait, la variation de la luminosité de cette étoile, la période de variation dépend de la luminosité elle-même, ce qui veut dire que les étoiles les plus lumineuses ou plus massives varient plus vite que les étoiles moins lumineuses. Quand je dis période de variation, ce que je veux dire, c'est le temps qui s'écoule entre deux maximums de luminosité. Et ça, c'est une observation qui est intéressante parce que, et donc il y a une vraie relation entre la période de variation et la luminosité elle-même. Parce que si on est capable de mesurer la période de variation, on peut en déduire la luminosité de cette étoile. Alors évidemment, la luminosité, on peut également la mesurer. Mais la luminosité qu'on mesure, elle dépend aussi de la distance de l'étoile. Donc vous voyez en fait que si je suis capable de mesurer la période de variation de la luminosité de cette étoile, et également sa luminosité apparente, je peux en déduire sa luminosité intrinsèque, c'est-à-dire la luminosité que je mesurerais si j'étais vraiment tout près de l'étoile. Donc en fait, la période de variation de la luminosité des étoiles, c'est une manière de mesurer leur distance. On peut retenir ça. Donc Hubble s'est intéressé aux variations de la luminosité des céphéides, mais en particulier celles qui se trouvaient dans les objets diffus, dans les nébuleuses. Et de cette manière, il a été capable de déterminer la distance de ces objets diffus. Et en fait, dans cette galaxie-là, qui est en fait la galaxie d'Andromède, il s'est rendu compte que la céphéide, dans cet objet diffus, on n'avait pas encore établi si c'était une galaxie, la céphéide était beaucoup plus loin que toutes les autres étoiles de la Voie lactée dont on peut déterminer la distance par d'autres moyens. Et donc, il a conclu que cette nébuleuse, cet objet étendu, était extragalactique, à l'extérieur de notre Voie lactée, c'était une autre galaxie. Et donc, à partir de ce moment, notre vision de l'univers prend une toute autre tournure parce qu'on se rend compte que l'univers est plein d'autres galaxies. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu à quoi ressemblent ces galaxies. Et dans la galaxie dont on vient de parler, que je vous ai montrée sur l'image précédente, c'est la galaxie d'Andromède, notre voisine, une galaxie qui ressemble à notre Voie lactée à nous en termes de masse, de nombre d'étoiles, en termes de forme. Et là, ce que je vous montre, c'est... il y a une superposition d'une image prise par un télescope au sol et la moitié des observations du télescope Hubble sur cette galaxie. Alors, le télescope Hubble, c'est un télescope qui a été lancé dans les années 70, donc dont le nom est en hommage à cet astronome Edwin Hubble dont j'ai parlé jusqu'à présent. Et le télescope Hubble, il fait des observations très très bien résolues du ciel, mais par contre son champ de vue est tout petit. Ça correspond à peu près à la taille d'un cratère de la Lune sur une seule photo du télescope. La taille de cette galaxie sur le ciel, elle est égale à plusieurs fois la taille de la Lune sur le ciel. Et donc en fait, il faut énormément d'observations, énormément de photos du télescope Hubble pour réussir à reconstruire cette mosaïque ici. Voilà, cette mosaïque-là. Donc cette galaxie qui est voisine de la Voie lactée, elle est intéressante parce que du coup, en l'étudiant, on peut se rendre compte un peu de ce à quoi ressemble notre Voie lactée. Et on voit en fait que c'est un disque d'étoiles, de milliards d'étoiles, dizaines de milliards d'étoiles. Ce disque est en rotation, notamment on voit ces bras spiraux, enfin, cet effet de spirale qu'on voit ici avec la poussière interstellaire. On voit qu'il y a aussi un bulbe au centre qui a une couleur différente de l'extérieur du disque. Et la couleur des étoiles, en fait, ça dépend de leur âge. Donc, les étoiles qui sont au centre de la galaxie, dans le bulbe, ce sont des étoiles qui sont en général plus âgées. Dans le disque, ce sont des étoiles qui sont plus jeunes. Elles sont plus bleues, donc plus massives, et les étoiles plus massives sont plus jeunes. Alors, on voit cette belle spirale. On a observé depuis avec le télescope Hubble et puis maintenant avec le télescope James Webb et beaucoup d'autres télescopes, beaucoup d'autres galaxies dans l'univers. Et en fait, on se rend compte que ce ne sont pas toutes des spirales. Donc ici, on voit également une belle spirale qui a deux bras principaux et qui a aussi un bulbe, qui a aussi de la poussière interstellaire qu'on voit ici en rouge. Mais à droite, c'est une galaxie qui n'est pas spirale, qui ressemble en fait à un bulbe géant, d'accord ? Avec des étoiles plutôt vieilles visiblement une galaxie qui n'est pas dominée par la rotation. Donc la question, c'est qu'est-ce qui rend ces galaxies si différentes ? Et en fait, ce qu'on peut dire déjà, c'est que la différence, ça va résider dans la manière dont les étoiles se comportent à l'intérieur de la galaxie. Une galaxie sous forme de disque, dans une galaxie sous forme de disque, les étoiles ont des orbites qui se développent dans un disque, des orbites qui sont bien ordonnées. Dans une galaxie plutôt elliptique, les orbites des étoiles vont être plutôt dispersées, plutôt désordonnées. Mais donc la question, c'est pourquoi les orbites des étoiles se comportent de manière différente dans ces deux galaxies. Alors pour répondre à cette question, une chose qu'on peut faire, c'est de faire des simulations numériques. Donc dans un supercalculateur, on va mettre des conditions initiales d'univers telles qu'on suppose qu'elles sont, et puis on va mettre nos équations d'évolution de la matière telles qu'on les comprend, et on va regarder ce que ça donne, est-ce que ça se compare aux galaxies telles qu'on les observe. Donc là, je vais vous montrer une petite animation qui représente, qui trace la formation d'une galaxie dans une simulation numérique. Et on va regarder ce qui se passe. Et donc au début, la galaxie est assez irrégulière. On voit qu'il y a des fusions qui perturbent beaucoup la galaxie. Et puis aussi, il y a ces périodes où la galaxie grossit, on la voit qui grossit tranquillement et qui forme ce disque qu'on voit de face. Donc, s'il y a une perturbation avec une autre galaxie qui passe, évidemment, ça va affecter le disque, mais cette galaxie, la plupart du temps, elle grossit de manière régulière. Alors, ce qu'on voit sur ce film, c'est seulement la distribution des étoiles dans la galaxie, et donc on la voit qui grossit, mais en fait, elle grossit pas ex nihilo. Elle grossit parce que, sous l'effet de la gravité, elle attire du gaz qui se trouve dans le voisinage de cette galaxie, et ce gaz, va se distribuer dans le disque et s'effondrer pour former des étoiles dans le disque. Donc en fait, le gaz, ça va être le carburant pour la formation stellaire dans le disque de cette galaxie. Donc c'est très intéressant, ces simulations numériques, malheureusement, on ne peut pas en faire pour des milliards de milliards de galaxies, parce que c'est extrêmement coûteux en termes de temps de calcul. Donc ça ne peut pas être notre seul moyen d'étudier la formation des galaxies et d'en expliquer leur diversité. Le problème, c'est que ces galaxies évoluent sur des périodes de temps très très longues. On ne peut pas seulement prendre une photo d'une galaxie un jour, puis revenir le lendemain, reprendre une photo, etc., et regarder comment la galaxie évolue. Le temps d'évolution d'une galaxie, c'est à l'échelle du milliard d'années. Donc, c'est bien au-delà de toute l'histoire de l'humanité. Par contre, donc, on ne peut pas photographier une galaxie à différents moments de son histoire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut étudier beaucoup de galaxies. Et là, vous voyez une image prise par le télescope Euclide, dont je vais vous parler après. Et sur cette image, eh bien, on voit... tout ce qu'on voit, ce sont des galaxies, sauf, évidemment, on a quelques étoiles ici. Alors, les étoiles sur cette image, elles sont bien reconnaissables parce qu'elles ont cette forme en étoile qui est en fait due à la figure de diffraction qui correspond à l'optique du télescope. Mais toutes les autres taches un peu diffuses, ce sont des galaxies. Et on voit que ces galaxies, elles ont toutes sortes de formes, toutes sortes de tailles. Il y en a qui manifestement sont beaucoup plus loin que d'autres. Donc ce qu'on peut faire, même si on ne peut pas suivre chaque galaxie individuellement, on peut essayer de suivre des populations de galaxies, regarder des populations de galaxies à différents moments de l'histoire de l'univers. comment c'est possible en fait de regarder les choses à différents moments de l'histoire de l'univers. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la galaxie d'Andromède. Et ce que j'ai oublié de vous dire à ce moment-là, ce que j'avais prévu de vous dire, mais bon, je vous dis maintenant, c'est que cette galaxie, elle est à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière met 2,5 millions pour nous parvenir, la lumière envoyée par les étoiles de cette galaxie. En d'autres termes, on voit cette galaxie telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. S'il y avait une vie extraterrestre sur la galaxie d'Andromède qui regardait la Voie lactée en ce moment et qui arrivait à résoudre la Terre sur leur télescope, donc voilà, c'est une expérience de pensée, ils verraient les premiers hommes, quoi, l'apparition de l'humanité sur Terre. Et donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, plus on regarde loin, plus on peut remonter l'histoire de l'univers. Donc si on est capable d'observer des populations de galaxies à différentes distances de nous, on va pouvoir regarder l'évolution des galaxies dans l'univers à différentes époques. Mais comment mesurer la distance des galaxies? En fait, on a vu cette méthode des céphéides, mais ça marche que pour les galaxies qui sont suffisamment proches pour lesquelles on peut distinguer les céphéides à l'intérieur. Cependant, pour mesurer la distance des galaxies, on va s'appuyer sur une astuce qui nous est offerte par l'univers lui-même. Là, ce que vous voyez, j'ai zoomé en fait sur quelques galaxies, voilà, sur cette image, et vous voyez en fait que on dirait que les petites galaxies sont plus rouges. On dirait que les galaxies qui sont plus loin sont plus rouges. Et ça, c'est dû à un effet qu'on appelle le décalage vers le rouge et qui est lié à ce que vous connaissez peut-être sous le nom d'effet Doppler. Alors, on va regarder ça. Maintenant qu'on commence à regarder cet effet, on va commencer à prendre pied dans ce que nous disent les galaxies sur l'invisible, sur l'univers lui-même. Alors, Hubble a déterminé qu'il y avait d'autres galaxies à l'extérieur de la nôtre, mais il a fait aussi beaucoup d'autres contributions, et notamment, il a mesuré la vitesse de fuite de ces galaxies. Donc là, ce qu'on voit, c'est la galaxie NGC 1832, et on voit un spectre qui correspond au spectre de cette galaxie. Donc le spectre, en fait, c'est l'intensité à différentes longueurs d'onde. Si vous n'êtes pas familier avec le concept de longueur d'onde, vous pouvez dire que c'est en fonction de la couleur. Vers la gauche de ce diagramme, on regarde plutôt les couleurs bleues, et vers la droite, plutôt les couleurs rouges. Alors évidemment, la plage de variation, là, elle est toute petite, mais plus on va vers la gauche, plus on regarde vers le bleu, et plus on va vers la droite, plus on regarde vers le rouge. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on voit cette grande raie d'émission, donc ce pic de luminosité, à une longueur d'onde bien particulière ici. Cette longueur d'onde, ça correspond à la longueur d'onde H-alpha, c'est une émission de l'hydrogène ionisé qui se recombine et qui envoie un photon à une longueur d'onde bien précise. Et ça, on peut le déterminer, on le sait d'un point de vue chimique, on peut reproduire ça en laboratoire. Donc il se passe la même chose dans les galaxies, donc on s'attend à voir cette émission à cette longueur d'onde bien précise. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'on n'observe pas cette émission à ces longueurs d'onde bien précises, mais on l'observe décalée, de cette manière-là. Et ce décalage est dû à l'effet Doppler. C'est quelque chose que vous connaissez, même sans l'avoir nommé ou conceptualisé. Quand une voiture s'approche de vous en accélérant, puis s'éloigne de vous, vous entendez le son qui monte vers l'aigu, et puis quand elle vous a dépassé, qui descend vers le grave. Il y a une variation des fréquences, en fonction de la vitesse de l'objet par rapport à l'observateur. Donc c'est la même chose pour les ondes lumineuses. Et donc une galaxie qui va s'éloigner par rapport à l'observateur va avoir ses couleurs, la couleur du spectre qu'elle émet, décalée vers le rouge. Et plus c'est décalé vers le rouge, voilà, plus on a cette translation, plus la galaxie s'éloigne vite de nous. Donc Hubble a été capable de mesurer la distance des galaxies grâce aux céphéides, et puis maintenant on voit qu'on est capable de mesurer leur vitesse aussi. Donc on peut établir ce diagramme vitesse en fonction de la distance. Et là, ce qu'on voit, donc tous ces points, ce sont des observations de galaxies particulières. On voit la vitesse ici et la distance ici. Donc nous, notre galaxie, elle était à 26 mégaparsecs et avec une vitesse de fuite de 2000 km par seconde. Donc 500, 1000, 1500, 2000, c'est là-haut. Et 20 mégaparsecs, c'est vraiment vers la droite. Voilà. Donc elle est loin sur cet axe, d'accord. Mais en fait, elle va suivre cette relation. Donc plus les galaxies sont loin, plus elles s'éloignent de nous. Voici la relation établie par Hubble. Donc ça semble être une observation extrêmement singulière. C'est une observation qui a été aussi établie, enfin cette relation a été aussi établie de manière concomitante par Georges Lemaître. Et en fait, Georges Lemaître a intégré ça dans son modèle d'expansion de l'univers. Et cette observation, en effet, s'interprète dans un univers en expansion. Dans un univers en expansion, imaginons par exemple que ça, ce soit la trame de l'univers, cette grille, et que nos galaxies soient sur la grille. Eh bien, si la grille grossit, toutes les galaxies vont s'éloigner les unes des autres. Et en fait, vous pouvez faire le dessin chez vous si vous voulez bien le comprendre, mais plus elles sont loin, plus elles vont s'éloigner vite de l'observateur. Donc, grâce à cette observation, on a mis en évidence que l'univers est en expansion. Et que donc, plus les galaxies sont loin, plus leur spectre est décalé vers le rouge. Pourquoi ça nous intéresse, ça, par rapport à ce que je disais précédemment ? Eh bien, parce qu'en mesurant le décalage vers le rouge du spectre des galaxies, je vais pouvoir en déduire leur distance. Donc, je n'ai plus besoin des céphéides ou d'autres objets comme les supernovae, mais je peux directement m'appuyer sur la distribution de l'émission des galaxies et comment c'est décalé vers le rouge pour en déduire leur distance. Et donc, je peux reconstruire une carte 3D de l'univers. Alors, ça, c'est une des premières cartes de l'univers qui a été établie. Alors, évidemment, là, c'est en 2D, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'observateur est ici, au centre du cercle, et plus on s'éloigne de l'observateur, plus on s'éloigne du centre, plus on s'éloigne de l'observateur. En fait, c'est une tranche d'une carte 3D, si vous voulez. Et vous voyez, en effet, que les distances sur cet axe ici sont exprimées en vitesse de fuite. Et donc, chacun des points sur cette carte, c'est une galaxie. Et là, on se rend compte que la distribution des galaxies dans l'univers n'est pas uniforme. D'accord ? Il y a des endroits où il y a davantage de galaxies et d'autres où il y en a moins. Et puis, il y a cette espèce de structure filamentaire qu'on a appelée structure en bulle de l'univers au départ et qu'on a ensuite appelée toile cosmique. Voici une autre visualisation de la toile cosmique avec un autre relevé qui est plus récent. Et donc là, vous voyez que les distances par rapport à l'observateur, par rapport au centre du cercle, ne sont pas exprimées en vitesse de fuite, mais en redshift, donc en décalage vers le rouge. Vous voyez, on a vraiment cette relation entre décalage vers le rouge et distance. Alors maintenant qu'on en est là, on va se poser la question, ben en fait, pourquoi la toile cosmique ? Pourquoi la matière est structurée ainsi dans l'univers ? Alors, c'est quelque chose qu'on comprend assez bien sous l'effet avec la gravitation, d'accord ? La gravitation va avoir tendance à amplifier les asymétries, les anisotropies. Donc, si au départ, on a une petite surdensité, une petite boule de matière qui n'est pas totalement sphérique, sous l'effet de la gravité, elle va avoir tendance à s'aplatir et puis à former des murs de matière et puis des filaments. Donc, globalement, le concept, on l'a, on comprend pourquoi ça marche. En revanche, s'il y avait dans l'univers seulement la matière telle qu'on l'observe, la matière visible, ça ne marcherait pas. On n'arriverait pas à construire cette toile cosmique dans le temps, enfin, le temps qui correspond à l'âge de l'univers de 13,7 milliards d'années. On a besoin pour ça, en fait, d'une forme additionnelle de matière pour lier les structures ensemble. Et cette forme de matière, dont on ne connaît pas la nature, on l'a appelée matière noire. Alors, de fait, la découverte de la matière noire tient aussi, la postulation de l'existence de la matière noire tient aussi à d'autres observations, notamment la manière dont les galaxies, les orbites des étoiles dans une galaxie, les étoiles dans une galaxie tournent, la vitesse de rotation des étoiles dans une galaxie, ou bien la distribution des galaxies dans un amas de galaxies, etc. Mais toutes ces observations convergent vers le fait que si on garde nos équations de la physique telles qu'on les connaît, on a besoin d'un ingrédient additionnel qui est la matière noire. Et donc la matière noire, c'est un des grands mystères de la cosmologie moderne. Il y en a un autre dont je dois vous parler, parce que après je vais vous introduire le télescope Euclide, qui a été vraiment conçu aussi pour mieux comprendre cet autre élément. Et en fait, alors, donc vous voyez, on est capable maintenant de reconstruire la toile cosmique, donc on est capable de l'observer à différentes époques du temps cosmique. Et ce qu'on voit, c'est que si on regarde des distances caractéristiques dans la distribution de matière, par exemple, voilà, la taille caractéristique des vides ou des choses comme ça, en fait, on va se rendre compte que dans l'univers que la gravité avec la quantité de matière telle qu'on la suppose, matière baryonique et matière visible et matière noire, en fait, on ne pourrait pas expliquer cette expansion des structures. On s'est rendu compte, en regardant ces distances caractéristiques, que certes, l'univers était en expansion, mais qu'il était en fait en expansion accélérée. Et pour expliquer cette accélération d'expansion de l'univers, on a besoin d'autre chose, on a besoin d'un composant additionnel, une forme d'énergie nouvelle, différente, qui va se comporter un petit peu comme une antigravité à grande échelle, comme une force répulsive à grande échelle. Et ce composant, dont on ignore également la nature, on l'a appelé énergie noire. Alors voilà un peu l'état de la cosmologie moderne, résumé dans ce diagramme densité-énergie. La matière ordinaire, c'est celle qu'on connaît, c'est celle qu'on peut observer, la matière visible. On a besoin de la matière noire et on a également besoin de l'énergie noire. Et vous voyez que matière noire et énergie noire, ça compte pour une très grande fraction de la quantité de la densité de masse énergie de matière énergie de l'univers. Donc voilà un petit peu le modèle actuel. Notre modèle, il est bien compris, en fait, avec la relativité générale. La relativité générale, elle marche bien à toutes les échelles, etc., à condition qu'on ajoute ces deux ingrédients mystères que sont la matière noire et l'énergie noire. Alors, l'enjeu maintenant, c'est d'essayer de poser des contraintes, c'est-à-dire de mieux comprendre la nature de ces deux composants. Et comment peut-on faire ? Ah oui, je voulais vous montrer ça avant, c'est un petit interlude, comme on est à peu près à la moitié de la conférence. Donc là, on voyage en fait dans un champ de galaxies. Ce sont des vraies observations, donc les images, en fait, ce sont des vraies photos de galaxies qui ont été replacées sur la carte 3D parce qu'on a été capable de mesurer la distance de ces galaxies. Alors évidemment, les galaxies sont grossies, elles ne sont pas à l'échelle par rapport à leur distance, hein, on ne les verrait pas si bien sinon. Donc c'est un voyage totalement fictif, parce que en fait, pour parcourir ce champ de galaxies, il faut aller à plusieurs milliers ou millions de fois la vitesse de la lumière. Et en fait, c'est très sympa, parce que ce qu'on voit, on voit bien cette distribution en grumeaux, et ces grumeaux, on le voit de temps en temps, qui sont reliés par ces espèces de structures filamentaires pleines de galaxies. Voilà. Et donc là, maintenant, on passe à la question, comment on va pouvoir poser des contraintes sur la matière noire et sur l'énergie noire. Et pour ça, les galaxies vont nous aider, parce qu'en fait, elles sont sensibles, nos observations des galaxies sont sensibles à la distribution de masse entre les galaxies et nous-mêmes. Dit autrement, c'était un peu, avec moins de circonvolution, les galaxies sont déformées par la matière en avant-plan. Alors, pour expliquer ça plus clairement, je vais vous faire un petit schéma. Donc, voilà, imaginons qu'il y a une galaxie et le télescope Euclide qui l'observe. Et du coup, la lumière suit le chemin le plus court, en fait, pour parvenir jusqu'à l'observateur. Elle se déplace en ligne droite. Et maintenant, imaginons qu'il y a un amas de galaxies entre la galaxie et l'observateur. Et donc, dans la relativité générale, l'amas de galaxies va déformer l'espace-temps. Et ce qui va se passer, c'est que la lumière, maintenant, elle va suivre un chemin qui n'est plus en ligne droite, quoi. Elle va toujours suivre le chemin le plus court, mais en fait ça va passer par suivre ce chemin déformé. Et donc ce qui va se passer, c'est que nous on observe ici, et donc on voit les choses en projection. Donc ce qu'on va observer, c'est qu'on va observer, on va avoir l'impression que la galaxie elle est là, on va voir la position apparente de la galaxie qui est décalée par rapport à la galaxie elle-même. Alors ce décalage, on voit ce décalage, mais ce qui se passe aussi, c'est que comme les galaxies sont des objets étendus, différentes parties de la galaxie vont être décalées de manière différente parce qu'elles vont avoir une position différente par rapport à cet amas qui est entre nous et l'observateur. Et le résultat net, c'est qu'elles vont apparaître déformées. Et ici, on voit toute une collection de jolis arcs gravitationnels. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est ça, vous voyez, ces arcs. On appelle ça l'effet de l'antigravitationnel, qui sont dus à la présence de la masse lumineuse entre l'observateur et la galaxie. Alors, en fait, ces arcs, on les observe très bien s'il y a un bon alignement, par exemple, entre la galaxie d'arrière-plan et l'observateur, et la masse entre les deux, ou bien si on a des amas qui sont extrêmement massifs, on observe aussi ces arcs gravitationnels. Mais la plupart du temps, on ne voit pas à l'œil nu les déformations. En fait, c'est des déformations qui sont très très petites, qui sont de l'ordre du pourcent, de l'ordre du pourcent. Donc, on peut pas, quand on regarde une galaxie, on ne peut pas déterminer directement quelle est sa transformation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder énormément de galaxies et on va regarder statistiquement comment elles sont déformées. Alors, comment ça marche? Donc, j'ai découpé cette petite partie du ciel en 6 rectangles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais superposer toutes les formes des galaxies dans un rectangle. Vous voyez? Donc, imaginez vos galaxies qui sont sur des feuilles de papier calque. Elles ont toutes une forme un petit peu différente, chaque galaxie, et puis vous superposez toutes les feuilles de papier calque et vous obtenez la forme moyenne. Donc je vais faire ça pour chacun des panneaux. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si il n'y a pas de déformation cohérente de toutes les galaxies dans un carré, la forme moyenne, ça va être une forme à peu près circulaire. Parce que, bon, évidemment, toutes les galaxies ont leur morphologie particulière, qui sont dues à leur histoire de formation, mais en moyenne, ça fait un truc circulaire. Mais si toutes les galaxies sont déformées un peu dans un sens ou un peu dans un autre, alors on va voir une certaine élongation. C'est ça qu'on va essayer de mesurer en regardant énormément de galaxies. Voilà, et donc si je fais ça pour tout ce carré de ciel, eh ben, on voit ici une déformation cohérente, et donc on peut en déduire que là, il y a une masse, quoi, de la matière noire, il y a quelque chose qui les déforme. Et ça, c'est un exemple de reconstruction. Bon, alors, je n'ai pas mis les échelles ici, mais c'est un exemple de reconstruction. Donc, c'est très grande échelle, d'accord, hein, ça, c'est à peu près la taille d'un amas de galaxies. Et donc, vous voyez, en fait, vous voyez qu'on peut reconstruire de cette manière la distribution de matière invisible, la matière noire, grâce à l'effet de l'anti-âge gravitationnel. La difficulté, c'est qu'il faut beaucoup de galaxies pour mesurer ce signal. Donc pour arriver à dire quelque chose de pertinent sur la quantité de matière noire et sa distribution, il faut énormément de galaxies. Et l'autre difficulté, c'est qu'il faut aussi pouvoir mesurer, comme on veut mesurer des déformations de l'ordre du pourcent, très, très petites, il faut aussi avoir un télescope qui résout très bien, enfin qui prend des images de très bonne résolution, quoi. Et ça, c'est ce qu'on voit, ce qu'on pouvait faire plus ou moins avant Euclide. Et en fait, tout est un peu flouté, parce que ce sont des images qui sont prises au sol, et l'atmosphère va avoir tendance à flouter un petit peu les images. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller dans l'espace pour ne plus souffrir de cette déformation de l'atmosphère. Et voilà à peu près ce qu'on va observer avec le télescope Euclide. Alors ça, ce n'est pas une image Euclide, ça donne une idée de ce qu'on a avec Euclide. Et donc, ça me permet d'introduire ma dernière partie de cette conférence et de vous parler du télescope Euclide qu'on a lancé pour mieux comprendre le récit des galaxies sur elles-mêmes et sur l'univers. Alors, pour commencer, je voulais vous montrer ce petit film. Donc, Euclide a été lancé le 1er juillet 2023 depuis la Floride avec une fusée Falcon 9 à 10h du matin. Et donc là, on assiste au lancement, voilà. Et donc, évidemment, c'est très rapide. Hein, donc, on voit la fusée qui s'éloigne en quelques minutes, on ne voit plus rien. Voilà. Et où a été lancé Euclide? Alors, Euclide a été lancé très loin, en fait, beaucoup plus loin que le télescope Hubble, dont on a parlé au début de cette conférence. Le télescope Hubble, il est en orbite basse autour de la Terre. Là, vous voyez la Lune. Le Soleil est loin par là. Et en fait, Euclide a été lancé ici, au point de Lagrange, un des points de Lagrange, point de Lagrange L2, qui est en fait un point d'équilibre dans le système Terre-Soleil. Et donc, ce point d'équilibre tourne autour du Soleil de concert avec la Terre. Donc le télescope, qui est, en fait, il n'est pas exactement au point de Lagrange, il est en orbite autour du point de Lagrange, c'est un million de kilomètres et demi de la Terre, et donc en fait il tourne en même temps que la Terre autour du Soleil, quoi. Alors, là je voulais vous montrer cette image qui est assez sympa, ça c'est une image qui a été prise par un télescope au sol, au sommet du Mauna Kea. Ce dont je vous ai parlé au début, ça a été pris par le Canada France Hawaii Telescope. Donc ce qu'on voit, ce sont des objets célestes, donc il y a des étoiles, il y a des galaxies, tout est très très saturé, hein. Mais en fait c'est une animation, et là sur l'animation on voit le télescope Euclide, donc c'est des photos successives du télescope, et on voit le télescope Euclide qui est en chemin vers le point de Lagrange L2. Donc ça a pris à peu près un mois pour envoyer le télescope jusque là-bas. Et au point de Lagrange, Euclide a été accueilli par d'autres télescopes qui s'y trouvaient déjà, notamment le télescope James Webb, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a été lancé un peu avant, qui est aussi en orbite. Et puis on a le télescope Gaia, ici, qui fait un relevé, non pas des galaxies, mais des étoiles de notre propre Voie lactée. Alors vous voyez en fait que cette orbite autour du point de Lagrange est très grande. Euclide fait, je crois qu'il fait, il met à peu près 6 mois pour faire un tour d'orbite. Donc il est en orbite autour du point et en même temps en orbite autour du Soleil. Alors qu'observe Euclide ? On l'a dit, on veut observer les autres galaxies, on veut faire un relevé extragalactique. Là, ce qu'on voit, c'est une vue de notre galaxie à nous, toujours. On voit bien le disque galactique, en fait, c'est juste un planisphère, en gros, hein. Ici, on voit des petites galaxies satellites de la Voie lactée, des petites galaxies naines. Ça, c'est une carte observée par Gaia, un des autres télescopes qui est en orbite autour du point de Lagrange. Et là, ce que je superpose, c'est une carte qui représente la distribution du gaz, la poussière interstellaire dans notre galaxie à nous. Donc là, en fait, on comprend que si on veut observer ce qu'il y a au-delà de tout ça, les autres galaxies, il ne faut pas regarder dans la direction du disque parce qu'on va être vraiment pollué par ce qu'il y a en avant-plan, quoi, par notre propre galaxie. Donc c'est pour ça que Euclide a été conçu pour observer tout le reste. Alors, on ne le voit pas très bien sur cette image parce que c'est à cause de la projection de ce planisphère, mais en fait, tout le reste ici, ça représente un tiers du ciel. Donc Euclide va observer un tiers du ciel. Ah oui, donc là, je voulais vous montrer cette maquette. Maintenant, on va s'intéresser un peu davantage à ce télescope. Et donc, cette maquette, elle m'a été gracieusement offerte par ces deux chercheuses qui, en fait, travaillent sur des filaments et notamment concevoir des alternatives biosourcées au plastique. Et donc, pour s'entraîner, elles ont travaillé sur cette maquette-là, qui est conçue à partir des filaments normaux, donc avec une imprimante 3D. Et donc ça, c'est la maquette du télescope. Donc on peut la regarder un petit peu. Le télescope fait un peu plus de 4 mètres de haut, pour se rendre compte un peu des proportions, et à peu près, voilà, de l'ordre de 3 mètres de large, ou un peu moins. Ça, c'est le tube optique. Et en fait, la maquette est démontable. Donc je peux vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, et à l'intérieur, il y a le miroir primaire, si j'arrive à le sortir. Donc ce miroir, le miroir primaire du télescope, qui fait 1,2 mètres de diamètre. Et en fait, donc la lumière, elle est collectée, les photons sont collectés par le miroir primaire. Et là, vous voyez, en fait, il y a un autre miroir donc, qui va réfléchir les rayons et qui vont les donc le miroir primaire, en fait, il est percé, et qui va les renvoyer vers l'intérieur ici, où elle va être redistribuée vers les caméras. Ensuite, ce que vous pouvez voir sur cette maquette, c'est que voilà, il y a des panneaux solaires qui vont être nécessaires pour produire de l'énergie pour le télescope. Puis, en fait, à l'intérieur, là, il y a un revêtement qui protège du rayonnement solaire. Il y a une très jolie maquette dans le hall d'Euclide en plus grande dimension que vous pourrez regarder tout à loisir tout à l'heure. Donc je vous ai dit, la lumière ensuite elle est redistribuée à l'intérieur de ce module ici. Donc là vous voyez une vue renversée du télescope, donc la lumière elle sort ici, Il y a un autre miroir, voilà, ça c'est le chemin un peu complexe. Et ici, on a un miroir, c'est un filtre en fait, un miroir dichroïque qui laisse passer une partie de la lumière plutôt dans le rouge et qui renvoie l'autre partie plutôt dans le bleu vers l'autre instrument ici, l'autre caméra. Donc vous voyez, on a deux caméras, le NISP et le VIS. Ces deux caméras font des prises de vue très différentes. Cette caméra ici, en fait, elle disperse la lumière, donc on va observer le spectre. Quand je vous ai montré la distribution de la lumière en fonction de la longueur d'onde au départ, ben c'est l'idée de cette caméra, en fait, pour mesurer de manière précise les distances des galaxies. Et puis cette caméra-là, elle prend des photos très haute résolution de ces galaxies pour en mesurer les formes, pour en déduire la distorsion due à la matière noire, et après pour mieux comprendre la croissance des structures. Donc on a lancé Euclide. Qu'est-ce qui se passe quand on lance un télescope dans l'espace? Donc au cours du mois où le télescope a voyagé vers le point de Lagrange, on a commencé à réveiller les instruments et à faire des premières prises de vue. Et alors c'est un moment plein d'émotions de regarder les premières images. C'est aussi le moment où on constate les problèmes potentiels, etc. Donc là on voit une partie de l'équipe qui regarde les données, ce qu'on appelle les données de commissioning, les premières images. Et alors, un des problèmes qu'on a eu au départ, c'est que les premières images, souvent, elles ressemblaient à ça. Alors ça, c'est très embêtant. Je ne sais pas si vous faites un peu de photographie ou même un peu d'astronomie en amateur, vous pouvez peut-être comprendre ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que les poses d'Euclide sont des poses longues. On fait des prises de vue d'une durée d'une dizaine de minutes. Et forcément, le télescope est en orbite autour du point de Lagrange, autour du Soleil, etc. Donc, il faut à chaque fois qu'il corrige son point T pour suivre le ciel tout au long de son orbite, pour suivre la même partie du ciel. Donc, si on ne fait pas ça, ce qu'on observe, c'est ça. Ça va être le tracé des étoiles sur l'image, qui est juste dû au fait que le télescope ne pointe pas de la même manière en fonction de son chemin sur l'orbite. Donc, c'était un problème du logiciel qui faisait le suivi. Cette correction de pointée, fort heureusement, c'est une mise à jour a permis de régler le problème. Une autre des difficultés qu'on a eues une fois que Euclide a été lancé dans l'espace, c'est celle qui est liée à un phénomène qu'on a observé aussi au cours de l'année passée à des latitudes assez basses, qui est celui des aurores boréales. Vous en avez peut-être vu vous-même l'année passée. On a pu en observer jusqu'à très bas dans le sud. C'est cet éclairage du ciel nocturne qui est dû à l'activité solaire. Vous savez que le Soleil a un cycle de vie d'une durée de 11 ans à peu près, et il passe par un pic, la période est d'une durée de 11 ans, donc on passe par un pic d'activité. Ce pic d'activité, on est autour de ce pic d'activité, là on l'a probablement peut-être un peu dépassé. Et en fait, pendant ce pic d'activité, les éruptions, il va y avoir davantage d'éruptions solaires, davantage de vent solaire. Donc il va y avoir un rayonnement à haute énergie émis par le Soleil, et puis aussi des particules chargées. Et la Terre a un bouclier magnétique et donc, qui la protège de ce rayonnement. Et en fait, les particules chargées suivent les lignes de champ et vont interagir avec la haute atmosphère autour des pôles. Donc c'est pour ça qu'on voit des aurores boréales autour des pôles. Mais voilà, s'il y a un orage solaire, s'il y a une tempête solaire, on va pouvoir observer ce rayonnement à plus basse latitude. Et ce rayonnement affecte aussi Euclide, d'autant plus qu'il est loin de la Terre, donc il n'est pas protégé par le bouclier magnétique de la Terre. Donc quand il y a un orage solaire, on a déjà un flux solaire à haute énergie qui frappe le télescope, et puis on a ces particules chargées, et ça va laisser des petites traces comme ça, qu'on appelle rayons cosmiques. Donc là, c'est un exemple de veille en fait, de la météo spatiale, la météo solaire par un satellite géostationnaire. Et ce que vous voyez, c'est le flux de particules en fonction du temps. Donc là, vous voyez que lors d'une forte éruption solaire, sur une période de quelques jours, on va passer par un pic de flux de particules. Et en fait, à ces moments-là, on peut même pas garder en général, on ne peut pas garder les images du télescope parce qu'elles sont beaucoup trop affectées par ces petits rayons cosmiques. Tout ça, c'est un exemple d'une image brute prise par Euclide. Et donc, vous voyez tous ces petits traits, c'est de la pollution, en fait, hein, due à cet effet. Fort heureusement, on observe une partie du ciel plusieurs fois. Et donc, et ces rayons cosmiques, ça frappe le détecteur de manière rapide et ça ne dure pas dans le temps. Donc, ça n'apparaît pas sur les images successives. Et en fait, en superposant les images, on va arriver à nettoyer de cet effet et pouvoir mesurer de manière précise les formes des galaxies. Donc voilà de nouveau la carte du ciel avec ce que va observer Euclide. L'idée, c'est d'observer 2 milliards de galaxies pendant un relevé qui va durer 6 ans, afin de mieux contraindre la matière noire et l'énergie noire. Donc voilà, en fait, on vous donnera des résultats de ça dans 6 ans. La conférence pourrait s'arrêter là. En revanche, dans les 5 minutes qui restent, je vais vous parler quand même de ce qu'on a pu mesurer sur les premières images qui ont été rendues publiques en mars. Parce que, évidemment, il faudra attendre 6 ans pour faire des mesures à caractère cosmologique. Cependant, en mars, on a rendu publiques ces petites images à 60 degrés carrés sur le ciel, qu'on appelle les champs profonds. Et en fait, ce n'est pas suffisant pour faire de la cosmologie, mais c'est suffisant pour commencer à regarder les galaxies, à étudier leurs formes, pour mieux comprendre les galaxies elles-mêmes, pas pour comprendre le contenu de l'univers. Et ces petits champs, en fait, c'est très très peu par rapport à la totalité du relevé, c'est moins de 1% de la totalité de ce que va faire observer Euclide, mais c'est déjà quasiment autant, que ce qu'a observé le télescope Hubble au cours de ces 30 années de prise de vue sur le ciel. Donc en fait, c'est assez vertigineux de se dire qu'en une semaine d'observation avec Euclide, on a observé autant qu'avec le télescope Hubble en 30 ans. Et donc on peut faire déjà pas mal de choses. On peut notamment regarder la toile cosmique. On en a parlé au début, cette distribution à grande échelle des galaxies. Là, on n'a pas une distance, on ne peut pas mesurer la distance des galaxies de manière très très précise pour faire ça en 3D, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on le peut faire en projection, en fait, dans des tranches de distance par rapport à l'observateur. Donc ce qu'on voit, c'est une image ici prise par Euclide, et les traits, ça correspond au tracé des filaments de la toile cosmique. D'accord ? Il y a beaucoup de traits qui se superposent parce qu'on a fait beaucoup de réalisations de ces tracés. En fait, chaque trait est aussi probable qu'un autre trait. Vous voyez ? Donc, quand c'est plus dense en trait, quand c'est plus blanc, quoi, c'est-à-dire que c'est très probable qu'il y a un filament de la toile cosmique qui passe par ici en projection. Quoi. Juste pour vous montrer que ça marche quand même assez bien, en fait, là, je zoome un endroit où il y a au moins 3 filaments qui se rejoignent ici, et on s'attend à voir des amas de galaxies, quoi, des très grosses structures de galaxies à cet endroit, et en fait, effectivement, on les retrouve. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de regarder comment les galaxies s'assemblent au sein de la toile cosmique. Parce qu'on a dit, en fonction de leur forme, si elles sont plutôt spirales ou plutôt elliptiques, elles ont probablement eu une histoire différente, et notamment une histoire de fusion différente. Donc ce qui se passe, c'est que les galaxies, elles sont attirées par la gravité autour des filaments, des grosses structures de matière, et puis donc elles vont tourner autour des filaments et se diriger vers les amas de galaxies. Et donc, quand elles tournent autour des filaments, elles vont avoir tendance à fusionner avec d'autres galaxies. Et si elles fusionnent avec d'autres galaxies, elles vont se transformer en galaxies assez dispersées, assez elliptiques. Tandis que si ce sont des disques, on s'attend plutôt à voir ça. Et on voit qu'il y a un alignement, un schéma d'alignement. Ça, c'est ce à quoi on s'attend théoriquement. On s'attend à voir les disques plutôt perpendiculaires, comme ça, et les galaxies elliptiques plutôt allongées. Et ces premières données d'Euclide, elles nous ont permis de mesurer ça. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on regarde la direction principale du filament, puis on regarde comment s'alignent les galaxies autour de ce filament. Donc ça, voilà, c'est peut-être le transparent le plus complexe, mais c'est aussi le dernier. En fait, ce qu'on voit, c'est que les galaxies qui sont de ce type elliptique ont en effet tendance à présenter cet alignement. Ce graphe, ce qu'il indique, c'est le nombre de galaxies en fonction de l'angle. Voilà. Est-ce que si la galaxie est alignée, on est plutôt vers 0. Si elle est perpendiculaire, on est plutôt vers 90. Et en fait, on voit qu'il y a plus de galaxies qui sont plutôt vers 0, plus de galaxies elliptiques qui sont plutôt alignées. Quoi. Alors ça m'amène à ma conclusion. Donc on a fait un grand parcours à travers l'astrophysique et la cosmologie moderne. L'astrophysique, on a vu que c'était une science récente, hein, ça date des années 1920, à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il y avait des galaxies à l'extérieur de la nôtre. On a vu que les formes des galaxies nous disent quelque chose de leur histoire, qu'elles nous disent aussi quelque chose du contenu de l'univers, et donc on peut aussi les étudier statistiquement pour mieux comprendre l'univers. Et ce télescope Euclide a été conçu voilà, pour essayer d'apporter des réponses, ou au moins des indications sur l'univers. Je vous remercie.
Merci. J'ai deux questions. La première, peut-être assez rapide, vous verrez pourquoi avec la deuxième. Mais la première, c'est que, sur quelle longueur d'onde travaille Euclide ?
Voilà. D'accord. Donc, il y a deux instruments qui observent à des longueurs d'onde différentes. Donc, la caméra visible qui prend les photos, en fait, c'est dans le visible. Et après, on a une caméra proche infrarouge.
D'accord. Et la deuxième question, alors là, on va remonter à l'histoire. Quelles sont les hypothèses actuellement concernant l'existence du trou noir au centre de la Voie lactée, voire oui. d'autres galaxies ?
Oui, alors il y a un trou noir. Voilà, c'est ça. Donc c'est une bonne question. En effet, notre Voie lactée a un trou noir en son centre, un trou noir supermassif. Les autres galaxies, au moins de cette masse, on s'attend à ce qu'elles en aient tous des trous noirs supermassifs, et même à des masses en dessous. Pour notre Voie lactée, en fait, on peut observer les orbites des étoiles dans le bulbe galactique et en déduire la présence du trou noir. En fait, c'est comme ça qu'on met en évidence le trou noir au centre de notre galaxie.
Oui, bonjour. Vous avez parlé de l'énergie sombre qui avait tendance à repousser les galaxies les unes par rapport aux autres. En donnant une image d'une antigravité.
Ouais.
Donc, sous-entendu, une force qui repousse en permanence. Mm. Mais en même temps, sur le schéma, il me semble que c'était une vitesse qui était proportionnelle suivant la distance. Mais si j'ai une force permanente qui pousse, je pense que normalement, je devrais avoir une vitesse qui augmente d'une manière au carré, un truc comme ça.
Merci pour votre question, hein, c'est très bien de préciser ça. Déjà, l'image de l'antigravité, c'est une analogie, donc elle est forcément limitée, parce que en fait, l'énergie noire, ça agit vraiment à très grande échelle, donc l'antigravité, ce n'est pas tellement approprié. Mais en effet, ça agit comme un peu une force répulsive, quoi, qui écarte les choses les unes des autres. Le diagramme vitesse-distance... c'est pas une droite, quoi. Mais ce dont on se rend compte, si on j'ai une image, voilà. Si on observe les supernovae, qui sont d'autres traceurs en fait de l'expansion, c'est que voilà, ça courbe, quoi. Alors c'est pas la vitesse, c'est le diagramme est inversé, quoi, parce qu'ici on a décalage vers le rouge. Et la luminosité apparente. Donc les détails ne sont pas si importants, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que s'il y a plus de décalage vers le rouge ou moins de décalage vers le rouge, ça ne va finalement pas être une droite, quoi. Et ça, c'est ce qu'on a mesuré. Donc c'est ce qui a valu le prix Nobel à ces chercheurs-là. Donc c'est une très, très bonne remarque. Hein, merci.
Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a une limite à l'expansion de l'univers ou c'est voué à s'étendre à l'infini ?
C'est une bonne question. Enfin, on n'a pas spécialement de réponse. Ce que les observations nous apprennent, c'est que l'expansion est accélérée. Voilà, ça, c'est ce qu'on constate. Une des vocations d'Euclide, ça va être d'essayer de dire si... la manière dont l'énergie noire se comporte au cours du temps cosmique a toujours été la même ou s'il y a une évolution dans les paramètres, dans la paramétrisation de l'énergie noire. Et, ça va nous permettre de dire quelque chose sur le modèle de l'énergie noire. Ça va en tout cas nous permettre d'en éliminer certains et possiblement d'en accepter d'autres. Et en fait, le destin de l'univers sur le long terme, bon, ça va dépendre du modèle d'énergie noire, bien sûr, mais... ça reste très difficile à comprendre parce qu'on n'a pas d'observation. Toutes les observations qu'on a, c'est dans le passé. Donc en fait, tout ce qui se passe après, on peut imaginer toutes sortes de modèles qui vont, voilà, qui vont prédire des choses différentes, mais ça ne va pas être contraint par les observations, quoi. Donc c'est une bonne question, mais c'est vraiment, enfin, on peut construire des scénarios, mais on ne peut pas apporter de réponse, quoi.
Merci.
Oui, puisque l'univers est en expansion, est-ce que ça veut dire que l'univers a un centre ?
Non, ça n'implique pas ça. On peut imaginer une nappe infinie qui est en expansion, qui grossit sans qu'elle ait un centre.
S'il n'y a pas de centre, le Big Bang, c'est a priori une image que l'on a tous dans la tête, c'est un petit point qui s'épanouit dans l'espace.
En fait, c'est une extrême surdensité, mais ce n'est pas forcément ponctuel dans l'espace.
Donc, c'était partout à la fois.
Voilà, exactement.
D'accord. Et lorsqu'on parle d'expansion, on parle de décalage vers le rouge.
Oui.
Mais y a-t-il des décalages au-delà du rouge, dans l'invisible ? C'est-à-dire qu'il y a un endroit dans l'univers qu'on ne voit jamais parce que c'est très décalé.
Ok. Alors, il y a deux choses dans votre question. La première, c'est que quand on parle de décalage vers le rouge, c'est en général, mais ce n'est pas forcément le rouge tel qu'on le perçoit. Ça peut être l'infrarouge très lointain, etc. Enfin, c'est le cas d'ailleurs, le submillimétrique, etc. Donc, on ne va pas forcément le voir avec nos yeux, mais on va pouvoir avoir des appareils de mesure qui l'observent. Et l'autre chose, c'est que l'univers observable est fini. Donc, en effet, on ne voit pas au-delà d'une certaine sphère, parce que la vitesse de la lumière est finie, et on va remonter en fait jusqu'au rayonnement diffus cosmologique. Enfin, voilà, l'univers a un âge aussi. Donc, on ne voit pas au-delà d'une certaine sphère. L'univers observable est limité, quoi.
Ouais, mais puisque j'ai le micro, j'en profite. Non, mais ça veut dire qu'avec l'expansion de l'univers, on va au-delà de la vitesse de la lumière, quelque part. Puisqu'on y arrive, on ne la voit plus.
Oui, mais alors en fait, c'est... si vous voulez, on peut dire les choses comme ça, mais il n'y a pas du tout de... Ça ne rompt pas du tout de causalité, etc., parce que c'est tous les objets qui s'éloignent les uns des autres, quoi. Il n'y a pas quelque chose qui... Il n'y a pas deux objets côte à côte dont l'un irait plus vite que la lumière, quoi. C'est tous les objets qui s'éloignent les uns des autres. Donc il n'y a pas de paradoxe au fait qu'en effet, à un moment, la vitesse de fuite des galaxies va être supérieure à celle de la lumière, quoi.
Merci.
Bonjour, merci beaucoup pour cette petite heure. J'ai une petite question qui n'est pas forcément sur Euclide, mais quand vous voyez l'orbite télescopes pardon, autour du point L2, le Gaïa, s'il y avait un espèce de...
Oui.
Qu'est-ce que c'est
Oui, c'est une bonne question. En effet, Gaïa a une orbite différente, et je ne sais pas pourquoi.
Enfin, c'était même pas circulaire, c'était un espèce de...
En fait, c'est une orbite, mais
elle est désaxée.
Le disque, enfin... Okay. Ouais, l'axe de l'orbite varie, quoi. Okay, la précession de l'orbite, mais... ouais.
Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait beaucoup de télescopes qui étaient envoyés au même endroit dans l'univers parce que c'était un point stable. Oui. Mais est-ce qu'il en existe d'autres endroits stables où on pourrait envoyer d'autres télescopes ?
Super, super question. En effet, les télescopes, on les envoie soit au point de Lagrange. Et c'est un point qui est bien parce que le télescope peut être au point de Lagrange et puis garder toujours dans son dos le Soleil et la Terre. Donc, y a pas de... Par exemple, la Terre n'est... Ce que voit le télescope n'est pas masqué par la Terre, s'il est en orbite autour de la Terre. Et puis, il maintient une distance constante par rapport à la Terre, à peu près. Donc, il y a d'autres points de Lagrange, mais on n'y envoie pas les télescopes. Ils sont plus loin et la configuration n'est pas intéressante. En revanche, il y a des télescopes en orbite basse. Hubble est en orbite basse. Il y a des télescopes aussi géostationnaires en orbite basse. Voilà. Ouais. Mais le problème de l'orbite basse, c'est en effet que ce que voit le télescope va être masqué par la Terre à un moment. Quoi. Il ne peut pas regarder toujours la même partie du ciel pendant... Enfin, il faut qu'il change. Il y a aussi un effet de rayonnement par la haute atmosphère de la Terre, enfin, qui va ajouter un bruit parasite sur les images. Il y a d'autres inconvénients. Mais en revanche, ce qui est bien quand on est en orbite basse, c'est qu'on peut, par exemple, Hubble, on peut faire de la maintenance sur le télescope. On peut envoyer des astronautes pour réparer s'il y a un problème. Ce qu'on ne peut pas faire au point de Lagrange, évidemment.
Justement, comment ces points de Lagrange ont été découverts, ces points de stabilité quelque part dans l'espace? Ouais. Ça a été trouvé comment?
C'est de la mécanique céleste. Et, alors, je ne pourrais pas vous raconter l'historique de la découverte, mais...
Mais je veux dire que c'est des points théoriques, c'est basé sur des calculs.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Enfin, en connaissant la masse des objets respectifs, l'orbite de la Terre, etc. Enfin, tout à fait.
Merci.
Oui, dans les systèmes solaires ou les différentes galaxies. Est-ce qu'il y a une raison ou des motifs qui expliquent pourquoi tous les objets tournent dans le même sens et ne sont pas dans des sens qui peuvent être contraires?
Ok. Alors, c'est une bonne question. Ça, en fait, ça dépend de la manière dont s'est formé le système solaire, enfin, à partir de la proto-étoile, quoi. Et en effet, ce nuage de gaz a un certain moment angulaire et quand il s'est effondré, il s'est aplati sous forme de disque. Et en effet, dans le disque, tout tourne dans le même sens. Enfin, ça dépend. Parce que le nuage de gaz avait une rotation initiale, et en fait, en s'aplatissant, comme on a la conservation du moment angulaire, on va avoir cet effet de disque, et tout tourne dans le même sens sur le disque, quoi. Mais pour les galaxies, c'est le cas souvent, mais ça arrive en effet que les galaxies attirent du gaz qui tourne à contre. Donc ça, on l'observe en effet sur les galaxies, et ça crée des effets intéressants de formation stellaire dans les ailes du disque, ou des choses comme ça, mais... On peut comprendre théoriquement pourquoi en fait tout tourne dans le même sens du fait de la conservation du moment angulaire. Je pense qu'il faut peut-être qu'on s'arrête parce qu'il est 14h. Mais merci beaucoup d'être venu.